Loué soit le Seigneur pour le privilège de croire ce que l'Écriture dit et d'expérimenter ce que l'Écriture nous a promis. Lorsque nous pensons à notre Seigneur, nous savons que chaque parole, toute parole écrite à son sujet et qui était écrite à son sujet, s'est accomplie en lui. Il, lui et la parole coïncidaient exactement, étaient en accord entièrement. Il était la parole faite chair. De la même manière, nous devons être conscients en ces jours que nous sommes devenus une partie de la parole, que nous avons été insérés dans le plan de salut de Dieu en ce temps et que nous pouvons personnellement faire l'expérience de cette partie finale de l'histoire du salut. Nous avons déjà entendu beaucoup de choses, nous sommes submergés, enthousiasmés par ce que Dieu nous a dit à travers sa parole et aussi par ce qu'il a fait. Comme le frère Pézal l'a dit tout aussi magnifiquement, la Bible est un vieux livre, mais elle devient nouvelle pour nous chaque jour. Mais je veux vous dire une chose. Dans ce très vieux livre, il y a des choses écrites qui seront réalisées dès aujourd'hui et dans 1000 ans et pour l'éternité. Ce livre ancien contient l'intégralité du conseil de Dieu. Il n'y a pas de livre comparable sur terre. Il n'y a qu'un seul livre dans lequel Dieu parle, dans lequel Dieu a exposé son plan de salut, et ce sont les Saintes Écritures. Et je voudrais dire spécifiquement à tous ceux qui sont nouveaux, qui ne peuvent pas encore croire et qui sont en train de prendre leur décision, à vous, je voudrais dire avec humilité, nous ne représentons pas une communauté chrétienne, mais nous avons une seule préoccupation, c'est de prêcher la parole de Dieu telle qu'elle nous a été léguée dans les Saintes Écritures. Dans ce contexte, je vous demande d'abandonner vos propres voies et vos propres pensées, de vous soumettre à Dieu, de suivre le chemin étroit qui mène à la vie, d'accepter ce que Dieu a dit et de vous séparer de toutes les traditions religieuses. Car il est possible de s'asseoir sous l'écoute de la parole de Dieu et en même temps penser et poursuivre ses propres pensées. Ce n'est pas la façon d'atteindre l'objectif. Il faut se laisser pénétrer par les pensées divines sous le coup de la parole de Dieu et laisser tout le reste, comme on vient de le dire, à droite et à gauche. Laisser tout le reste tomber à droite et à gauche. Nous avons plus de 300 directions de communautés chrétiennes différentes. Dans quelle direction alors devrions-nous aller? Chacun pense avoir raison. Nous ne pouvons aller que dans une seule direction et celle-ci doit être la direction divine. Si nous voulons atteindre le but et que Dieu nous accorde la grâce de le faire. J'ai déjà fait cette remarque à propos du baptême dont nous parlerons aussi plus tard. Nous savons à quel point ici cela est enseigné et traité différemment. Nous devons revenir au début, au commencement, à ce qui s'est passé au début du christianisme. C'est pourquoi nous sommes ici, non pas pour dire ce que les autres ont dit, mais pour proclamer ce que nos frères ont proclamé au commencement dans l'Église primitive. Aujourd'hui, je voudrais lire un certain nombre d'écritures et j'espère que la parole de Dieu fera, donc produira en nous tous l'effet pour lequel elle a été envoyée et exécutera la volonté de Dieu. La nuit dernière, le frère Marco Fori a appelé et il nous envoie ses salutations les plus chaleureuses. Je voudrais les avoir remises ici. Nous lisons dans Actes Apôtres, le chapitre 2, à partir du verset 22. Actes Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 22. Vous comprenez, si je parle lentement aujourd'hui, c'est une question de traduction. Si je parle, quand on parle vite, alors tous les traducteurs ont des difficultés, n'est-ce pas, à transmettre. Et nous l'avons déjà souligné aussi, l'autorité n'est pas dans la voix ou le volume de la voix. L'autorité est dans la parole de Dieu elle-même. Et toute personne qui reçoit la parole en elle-même et qui est rendue vivante pour elle par l'Esprit, ressentira et expérimentera cette autorité de Dieu. Actes Apôtres 2, verset 22. « Hommes d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, homme qui, comme vous le savez, vous-même s'est révélé devant vous comme l'envoyé de Dieu par des actes de puissance, des miracles et des signes que Dieu a accomplis par lui au milieu de vous. Cet homme qui, selon le conseil et la prédestination de Dieu, vous a été livré, vous l'avez cloué à la croix par la main de l'impie, par la main des impies, et vous l'avez mis à mort. Dieu l'a ressuscité, ayant dissipé les douleurs de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, de sorte que je ne chancelle pas. C'est pourquoi mon cœur s'est réjoui et ma langue a tressailli d'allégresse. De plus, mon corps aussi se reposera dans l'espérance, car tu ne laisseras pas mon âme dans le royaume des morts et tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption. Tu m'as fait connaître des chemins de vie. Tu me rempliras de joie devant ta face. » Jusqu'ici de cette prédication. Le Seigneur de la vie a délié les souffrances de la mort. Il est ressuscité le troisième jour. Il a vaincu la mort pour nous tous, de sorte que personne ne doit plus avoir peur. La mort est quelque chose de cruel, d'impitoyable. Et l'Écriture sainte dit, oui, parce que tous ont péché, la mort est venue à tous, et la mort est le salaire du péché. Mais il est venu, celui en qui le péché n'avait aucun droit, mais qui a pris sur lui le péché de notre péché à nous tous, pour mourir notre mort, pour descendre pour nous dans un enfer de la terre, comme je l'ai souvent dit, c'est nous qui aurions dû descendre dans l'enfer. Mais il est descendu pour que nous puissions être enlevés dans la gloire de Dieu. Bien-aimés, celui qui reçoit toute la rédemption transfigurée par l'Esprit de Dieu, révélée par l'Esprit de Dieu, des larmes couleront. Il sera intérieurement saisi. Et nous nous disons, Seigneur, qu'est-ce qui t'a poussé à nous racheter, à nous délivrer et à faire un tel suivre un tel chemin jusqu'à porter la couronne d'épines, à accepter la moquerie et le mépris, et ensuite à être crucifié de la manière la plus cruelle. Tout cela a eu lieu à cause de toi et à cause de moi. Nous étions perdus, sans rien, sans Dieu et sans espoir, sans espérance dans ce monde. Nous n'aurions jamais pu venir à Dieu si Dieu n'était pas venu à nous. Nous n'aurions jamais pu être restaurés au statut divin si Dieu n'avait pas déposé sa divinité et pris une forme humaine afin d'accomplir l'œuvre de la rédemption ici, dans la chair, pour nous qui sommes dans la chair, afin de nous racheter de notre caractère charnel, éphémère et mortel, et de nous restaurer dans l'immortalité afin de faire des enfants de Dieu, afin de faire d'enfants d'hommes des enfants de Dieu. C'était un prix élevé qui a été payé. Et Pierre écrit dans sa lettre, vous n'avez pas été racheté avec des choses corruptibles, avec de l'argent ou de l'or, mais avec le sang précieux et saint de l'agneau de Dieu. C'était un prix coûteux, un prix précieux, mais ceux pour qui ce prix a été payé sont également précieux aux yeux de Dieu. Vous savez, lorsqu'un prix élevé est payé, la chose pour laquelle ce prix a été payé doit avoir aussi une valeur, une grande valeur. Nous étions si précieux aux yeux de Dieu que le prix le plus grand et le plus précieux a été payé pour nous. Dès lors, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais à celui qui nous a rachetés, qui a fait de nous sa possession, sa propriété. Et je souhaite à Dieu aujourd'hui, je souhaite devant Dieu aujourd'hui que les derniers qui sont parmi nous se laissent emporter, saisis par cet amour de Dieu, par cet amour universel de Dieu, qu'ils abandonnent leur propre chemin et suivent le chemin de Dieu qui mène à la vie. Maintenant, deux passages de l'Ancien Testament. Un de Osée 13. Osée 13, le verset 14. Ici, il est écrit concernant le Seigneur, je devais les délivrer du pouvoir du royaume des morts, les racheter de la mort. Quelle parole merveilleuse! Je devais les délivrer du pouvoir du royaume des morts, les délivrer et les racheter de la mort. Parce que tous les hommes ont péché, la mort les a tous engloutis, entraînés dans sa chute. Mais beaucoup d'entre eux avaient placé leur espoir dans la venue du Messie. Dans cet espoir qu'il vienne les racheter, ils se sont endormis. L'espoir ne les a pas laissés périr. Ils n'ont pas attendu en vain lorsque l'heure est venue et que le Seigneur est mort à Golgotha, il a apporté le salut et est descendu dans les lieux les plus bas et y a rendu témoignage à ceux qui ne croyaient pas, qui n'avaient pas cru. Et puis ensuite, il est passé au paradis où Abraham, Isaac et Jacob étaient tous ceux qui avaient cru de leur vivant, qui avaient mis leur espoir dans le Sauveur, comme nous l'avons entendu dans la prédication de frère Branham hier. Job et tous ces hommes de Dieu attendaient, car il y avait en eux une espérance vivante dans le Dieu vivant. Et pourtant, la mort les a emportés tous. Mais maintenant est venu celui qui a emporté la mort. Maintenant vint celui qui a pris en lui, c'est vrai, l'aiguillon de la mort, mais qui se faisant, mais qui ainsi le permettant a écrasé la tête du serpent et est descendu pour faire sortir tous ceux qui étaient en prison et a amené la prison en captivité. Ici, il est écrit, je devais les délivrer du pouvoir du royaume des morts, les racheter de la mort. Non, où sont tes fléaux aux morts? Où est ta pestilence au monde souterrain? La pitié est inconnue à mes yeux. Qu'est-ce que c'était? Dieu ne pouvait pas avoir pitié de la mort, de l'enfer et du diable. Dieu a eu pitié de toi et de moi et a donc ôté le pouvoir de la mort, vaincu l'enfer et triomphé du diable pour nous apporter la rédemption et la délivrance. Dans le prophète Ésaïe, au chapitre 25, verset 8, il est écrit, Ésaïe, chapitre 25, verset 8, Ésaïe 25, verset 8, il fera éternellement disparaître la mort. L'Éternel Dieu essuiera les larmes de tout visage et l'opprobre de son peuple. Il l'effacera de toute la terre, car l'Éternel l'a promis. Amen. Il a promis. Il a promis. Et c'est pourquoi cela s'est accompli, s'est produit. Lisons d'autres passages du Nouveau Testament dans l'évangile de Jean, au chapitre 20. N'est-ce pas, la résurrection d'une manière très particulière a été décrite d'une manière très particulière et très vivante dans l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 19. Le soir étant venu, en ce jour, premier jour de la semaine, et les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermés par crainte des Juifs, Jésus entra, se tint au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Après ces paroles, il leur montra ses mains et son côté. Alors les disciples se réjouirent parce qu'ils voyaient le Seigneur. Alléluia. Alors les disciples se réjouirent parce qu'ils voyaient le Seigneur. Sur le chemin du tombeau, les femmes dirent, qui roulera la pierre pour nous? Quand ils sont arrivés, elle avait été déjà roulée. Il n'y avait plus personne dans le tombeau ou dans la tombe. Le Seigneur est ressuscité. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il est mort. Et il a été enterré, enseveli. Il est descendu aux enfers. Il a vaincu toutes choses. Et le troisième jour, il est ressuscité des morts. Et il a dit à Jean sur l'île de Patmos. Je devrais peut-être le lire pour avoir la formulation exacte. Apocalypse, chapitre 1. Ici, il est écrit au verset 17. À sa vue, je tombais à ses pieds comme mort, et il posa sa main droite sur moi et dit : Ne crains pas, c'est moi le premier et le dernier. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici que je vis éternellement. Et j'ai les clés de la mort et du royaume des morts, donc de l'enfer. Puisse le même Seigneur poser sa droite sur chacun de nous aujourd'hui et nous adresser ses paroles de manière aussi urgente telle qu'il les a adressées à Jean en ce temps-là. Ne craignez pas. Vous savez, la crainte est liée à l'incrédulité et au doute. Notre crainte, il y a tellement de crainte parmi le peuple de Dieu que Dieu nous débarrasse de cette crainte et nous donne la crainte devant lui, la révérence pour lui et sa sainte parole, la crainte de Dieu pour lui et sa sainte parole. La crainte n'est pas dans l'amour. L'amour parfait chasse la crainte. Donc à Golgotha, l'amour parfait de Dieu a été manifesté. Et si nous avons été rachetés, délivrés, alors cet amour doit aussi se manifester en nous. Puisque nous sommes déjà dans Apocalypse 1, permettez-moi de lire quelques versets du premier chapitre, à savoir du verset 5, Apocalypse chapitre 1, versets 5 et 6. Apocalypse chapitre 1, versets 5 et 6. Et de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le dominateur des rois de la terre, lui qui nous aime et nous a délivrés de nos péchés par son sang et a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour son Dieu et Père, à lui la gloire et le pouvoir pour toute l'éternité. Amen. Lui qui nous a aimés et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et pas seulement délivrés et rachetés, mais a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Pierre écrit un royaume. Il dit, vous êtes la race royale, la descendance royale, le saint sacerdoce, pour offrir des sacrifices vivants, agréables à Dieu. Et ceci aussi est déjà écrit, que nous devons offrir à Dieu le sacrifice de nos lèvres à la louange de son nom, qui loue son nom. Nous devons remercier Dieu du fond du cœur pour tout ce qu'il a fait par Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous allons continuer avec le passage. Lisons, nous allons continuer avec le passage de Philippiens, chapitre 2. Philippiens, chapitre 2, je voudrais avec esprit, donc je voudrais volontairement ces précieux passages qui nous donnent, qui nous représentent Golgotha et ce qui s'est passé à travers, donc ce qui s'est passé par Golgotha pour nous, afin que nous puissions le voir sous nos yeux. Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 7. Il s'est lui-même dépouillé, il s'est dépouillé lui-même, prenant sur lui la forme d'un esclave serviteur, entrant entièrement dans la nature humaine et étant trouvé dans son corps comme un homme. Il s'est humilié et abaissé lui-même et fut obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a aussi élevé au-dessus de toute mesure et lui a donné le nom qui est supérieur à tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux de tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre et sous la terre fléchissent. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Quelle parole merveilleuse! Même ce qui est écrit ici deviendra un jour une réalité. L'heure sonnera où et dans laquelle toute langue confessera. Tous ceux qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre, que Jésus-Christ est le Seigneur. Nous le confessons déjà aujourd'hui, comme nous l'avons entendu dans la prédication hier. Toute parole a été donnée pour s'accomplir avec puissance et force au moment voulu. Et il en sera ainsi lorsque la perfection, l'achèvement de l'œuvre de Dieu viendra et que tout lui sera soumis. Toutes choses lui seront soumises. Alors, toute langue confessera et tout genou fléchira. Se fléchira. Oh, quel jour ce sera! Nous pouvons compter. Nous pouvons nous attendre à cela. Aucun athée, aucun communiste, personne ne pourra échapper ce jour et cette heure. Tous confesseront que Jésus-Christ est le Seigneur. Alléluia! Personne n'échappera. Quand il est dit ici toute langue, cela veut dire toute langue. Et quand il est écrit ici tout genou, chaque genou, ça signifie chaque genou. Aujourd'hui, tous marchent exaltés avec le. Personne ne s'agenouille, personne ne s'incline, mais l'heure vient où tous s'inclineront et se confesseront et confesseront. Celui que nous avons rejeté est bien le Seigneur et son nom est élevé au-dessus de tout autre nom. Et ils devront l'avouer aussi, le confesser. Lisons les Colossiens également. Une parole très très glorieuse, Colossiens chapitre 2. Ici, nous lisons à partir du verset 13. Vous aussi qui étiez autrefois morts dans vos transgressions et dans l'incirconcision de votre chair, Dieu vous a fait revivre ensemble avec lui en nous ayant pardonné par grâce toutes nos transgressions. Loué soit notre Dieu. Aussi vous qui étiez éloignés dans les péchés, ainsi de suite, Dieu vous a fait revivre ensemble avec lui. Nous avons parlé de la puissance de Dieu qui donne la vie. Et nous avons vu que cette puissance de Dieu s'est manifestée en Jésus, le chef de l'Église, la tête de l'Église. Mais pas seulement en lui, mais en nous tous qu'il a délivré, racheté, qu'il a pardonné. Nous avons été crucifiés avec lui. Nous sommes morts, nous avons été ensevelis et nous sommes devenus vivants avec lui. Nous avons reçu une vie éternelle, une vie nouvelle, une vie divine. Et nous avons été renouvelés et nous sommes nés de nouveau. Ça, c'est un fait divin. Mais ce n'est que lorsque nous croyons ce que l'Écriture ici dit que cela peut se manifester à nous et devenir une réalité. Si nous faisons que l'entendre, cela reste une simple audition. Mais si nous croyons ce que nous entendons, alors cela devient une réalité dans notre vie, dans nos vies. Écoutez cela encore. Dieu vous a fait revivre ensemble avec lui en nous ayant pardonné par grâce toutes nos transgressions. Pas seulement certaines transgressions, mais toutes. C'est écrit dans le prophète Ésaïe. Et si vos péchés étaient rouges sang, ils deviendront blancs, neige, blancs comme la neige. Nous sommes sortis de l'incrédulité et nous avons reçu la foi et nous savons que c'est accompli. Il a pardonné, il l'a réconcilié, il a fait grâce et pardonné. Poursuivons la lecture de l'Écriture dans l'épître de Hébreux, chapitre 2, verset 14. Oh, je vous demande, reliez chaque parole de Dieu à votre foi dans votre cœur. Ne laissez pas seulement la parole résonner. Laissez la parole vous pénétrer. Croyez-la. Repassez-la dans votre cœur. Vivez-la, expérimentez-la personnellement. C'est de ça qu'il s'agit. Hébreux 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a aussi reçu une part égale à la leur, afin de détruire par sa mort celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Frère Franck a lu comme ça, celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, afin de libérer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient tenus en esclavage toute leur vie. Verset 16, car ce n'est pas des anges qu'il doit prendre soin. Mais c'est de la postérité d'Abraham qu'il prend soin. Il fallait donc qu'il devienne en toutes choses semblable à ses frères. Il lui fallait donc devenir en tout semblable à ses frères afin d'être un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle à Dieu pour obtenir le pardon des péchés du peuple par l'expiation. C'est pourquoi, ayant lui-même souffert la tentation, il est capable de secourir ceux qui sont tentés. Quelle grâce, quel privilège. Tant que le Seigneur était dans le corps spirituel, il ne pouvait pas compatir avec nous qui sommes dans la chair. Il ne pouvait pas ressentir avec nous. Il pouvait juger et dire, cela n'est pas bien, cela n'est pas correct, cela est un péché et cela est mal. Mais il ne pouvait pas nous comprendre, il ne pouvait pas compatir. Mais ensuite, il est venu dans un corps de chair et il est devenu comme nous. Oh, loué soit Dieu. Il n'a pas racheté depuis le ciel. Il est venu sur cette terre et est devenu comme nous. Afin que, racheté, nous puissions ensuite devenir comme lui, semblable à lui. Il est devenu semblable à nous pour que nous puissions ensuite devenir semblable à lui. Et c'est pourquoi Jean écrit, ce que nous serons un jour n'a pas encore été manifesté. Mais quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables. 1 Jean 3, versets 1 à 4. Alléluia! Louange et gloire au Dieu vivant. Il est devenu semblable à nous. Il est devenu homme. Il était ici, sur terre. Il pouvait maintenant nous comprendre. Aujourd'hui, j'ai un message joyeux pour vous. Une bonne nouvelle. Puisqu'il est lui-même devenu homme et qu'il a été tenté en toutes choses, comme nous le sommes, il a une compassion intime pour chacun d'entre nous désormais. Il ne peut plus condamner. Il ne peut plus condamner. Il ne peut qu'intercéder pour nous tous. Et le sang parle pour nous jusqu'à ce que nous apparaissions parfaits devant le trône de la grâce de Dieu, sans tache, sans ride. Ça, c'est l'évangile. Alléluia. Loué soit Dieu. Ça, c'est la bonne nouvelle, un message joyeux. Pouvez-vous le croire tous? Pouvez-vous l'accepter tous? Pouvez-vous expérimenter tout ce que Dieu nous a promis? Oui, c'est pour cela que nous sommes réunis. Et non seulement pour l'entendre, mais aussi pour le vivre, pour l'expérimenter. Encore une parole concernant la résurrection et le contexte que nous en avons reçu. 1 Pierre chapitre 1, verset 3. 1 Pierre chapitre 1, verset 3. Loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a fait naître de nouveau à une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Avons-nous tous bien entendu cela? Il nous a fait naître de nouveau à une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Si le Seigneur était seulement mort, s'il n'était pas ressuscité, que pourrions-nous dire aujourd'hui? Nous devrions rester silencieux. Nous n'aurions pas de message de Dieu. Nous ne saurions même pas de quoi il s'agit. La résurrection a été le couronnement de l'œuvre de la rédemption de Dieu pour nous. Et nous croyons que notre Seigneur est mort, qu'il a été enterré et enseveli donc, et qu'il est ressuscité des morts le troisième jour, conformément aux Écritures. Même autrefois, déjà autrefois, alors que le Seigneur marchait sur terre et était venu au tombeau de Lazare et a dit « Il ressuscitera ». Marthe a dit alors, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Et cela vint sur notre Seigneur. Et il a dit, mais je suis la résurrection et la vie. Il voulait dire, mais si je suis ici en tant que résurrection, alors Lazare ne doit pas attendre le dernier jour. Je suis ici comme la résurrection et la vie. Et il cria, Lazare, sors de là. Et il est sorti. Comme c'est beau que notre Seigneur n'avait pas seulement des paroles, des mots, mais des paroles et des actes. Et les paroles et les actes étaient toujours, donc correspondaient toujours. Il était et il est la résurrection et la vie. Il disait, celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. La mort est toujours parmi les hommes. Mais pour les croyants, la mort n'a rien de cruel. Elle est le moyen de nous transporter hors du temps vers l'éternité. Nous ne faisons que changer de domicile. Mais pour les non-croyants, la mort est quelque chose de cruel. Nous pouvons nous exclamer avec Paul. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? Nous croyons que Dieu nous a donné la victoire par Jésus-Christ, notre Seigneur. Aucun de nous qui croit ne doit encore avoir peur de la mort. Et celui qui a encore peur de la mort n'est pas encore mort avec Christ. Celui qui est mort avec Christ et a reçu une nouvelle vie, la mort n'a plus aucun pouvoir sur lui. L'aiguillon de la mort a été retiré et nous savons et nous n'avons plus rien à craindre. Quelle parole merveilleuse! Quelle parole merveilleuse! Permettez-moi de lire plus loin dans 1 Pierre chapitre 1 et maintenant le verset 4. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Ceux qui sont gardés par la puissance de Dieu, par la foi pour le salut qui est prêt à être révélé dans le dernier temps. Loué soit notre Dieu. Nous l'avons souligné, Dieu a fixé un temps pour chaque chose. Ici, il est dit que nous sommes nés de nouveau pour une espérance vivante, pour un héritage incorruptible et impérissable qui nous est réservé dans les cieux que nous avons et que nous avons été destinés, déterminés au salut. Et qu'est-ce qui est écrit ici encore dans la dernière clause du dernier verset? Qui est prêt à être révélé dans le dernier temps? Nous croyons que nous vivons dans les derniers temps. Et nous croyons que le retour de Jésus-Christ est très proche. Et nous croyons que le Seigneur appelle une église de toutes les langues, de tous les peuples et de toutes les nations, qu'il les appelle à sortir. Il appelle l'église à sortir. Et à la fin du temps de la grâce, il arrivera que le Seigneur reviendra avec la trompette de Dieu, avec la voix de l'archange. Et alors les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui sommes restés vivants, nous serons changés et enlevés ensemble avec eux. Dieu le fera valoir ainsi aussi, car c'est ainsi que c'est écrit dans sa parole. Dieu le forcera, Dieu le fera. Cela se produira parce que Dieu l'a ordonné et que c'est écrit dans sa parole. Nous devons maintenant parler très brièvement du baptême d'eau et nous allons lire quelques passages des Écritures à ce sujet. Dans Marc, chapitre 16, l'ordre de baptiser et l'ordre missionnaire ont été donnés. Ici, je lis à partir du verset 14. Marc 16, à partir du verset 14. Dès le verset 14. Mais plus tard, il se révéla aux onze comme ils étaient à table et il réprimanda leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus après sa résurrection. Puis, nous restons d'abord ici un moment, à ce verset. Arrêtons-nous un instant ici sur ce sujet. Il y a, sur ce verset, il y a des gens qui ont fait l'expérience de Jésus comme étant le ressuscité. Et ils en témoignent auprès des autres. Chère âme, croyez ces gens. Il y a encore aujourd'hui des personnes sur terre qui ont fait l'expérience de Dieu, avec Dieu. Croyez-le. Croyez cela. Il y a des gens sur terre qui ont fait l'expérience avec Dieu, qui ont expérimenté Dieu, qui ont vu, entendu et expérimenté Jésus-Christ en tant que ressuscité. Avons-nous de telles personnes parmi nous? Amen. Assurément. Assurément. Je l'ai connu. Je l'ai entendu. Et je l'ai vu de bien des façons. Il est ressuscité. Nous ne sommes pas de faux témoins. Nous témoignons de la vérité. Jésus-Christ est vivant. C'est la vérité divine. Nous sommes de véritables témoins de Dieu. Jésus disait autrefois, vous êtes mes témoins. Un témoin doit avoir vu quelque chose. Et vous savez très bien, les disciples et les croyants de cette époque, ils ont vu le Seigneur. Ils ont pu en rendre témoignage. Paul écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, comment le Seigneur est apparu à plusieurs personnes, puis même à plus de 500 frères à la fois. Là, le mot frère est écrit, il révélera son nom à ses frères. Va et dis à mes frères que je suis ressuscité des morts. Le Seigneur avait dit, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Après la résurrection, aucun incroyant ne l'a vu. Mais ses frères l'ont vu. Ceux qui ont été pardonnés par Dieu, qui ont reçu la grâce de Dieu, ont eu une communion avec lui après sa résurrection. Dans les Actes des apôtres, le premier chapitre, il est dit que pendant 40 jours après sa résurrection, il était avec ses disciples, leur parlant du royaume de Dieu. Je le crois, ça je le crois. Et vous aussi? Je le crois. Et vous? Je crois qu'il a parlé à ses disciples du royaume de Dieu. Si nous sommes ses vrais disciples aujourd'hui, alors il nous parlera aujourd'hui du royaume de Dieu. Il sera au milieu de nous et agira par son esprit. Mais nous devons le saisir dans la foi et savoir que cela se passe encore aujourd'hui. Le Seigneur a réprimandé leur incrédulité parce qu'ils ne croyaient pas ce qu'il avait vu et expérimenté. Ils n'ont pas cru à leur témoignage. Mais bien aimé, je le répète, si un homme a fait l'expérience avec le Seigneur et qu'il l'en témoigne, croyez-le, acceptez-le, et vous aussi, vous ferez l'expérience avec le Seigneur de la même manière. Nous sommes tous parvenus à la foi grâce au témoignage d'autres personnes. Les vrais croyants ont témoigné de leur expérience avec Dieu. Ainsi dans toutes les époques, des hommes sont parvenus à une nouvelle foi. Et il en va de même dans notre temps. Nous arrivons maintenant au verset, au 15e et au 16e verset, dans Marc 16. Puis, il leur dit, allez dans le monde entier et proclamez le message du salut à toute la création. Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé. Mais celui qui sera resté incrédule sera condamné. Marc 16, verset 16. Une parole très sérieuse. Le baptême est simplement nécessaire pour le salut. Une personne qui est devenue croyante ne doit pas s'efforcer de se conformer ou de résister à la parole de Dieu. Il doit... Elle doit plutôt... poussé par l'Esprit de Dieu, accomplir toute l'Écriture, toute la justice comme notre Seigneur l'a dit à l'époque. Donc, par conséquent, quiconque croit et est baptisé sera sauvé. Celui, bien sûr, qui ne croit pas, bien sûr, ne se laissera pas baptiser et ne pourra donc pas aussi être sauvé. Il n'est certainement pas question ici d'asperger un nourrisson avec 3 gouttes d'eau consacrée. Il ne parle ici, il n'est sûrement pas question de cela. du baptême des enfants. Ici, il est clairement dit, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile, tout d'abord. Ça, c'est la première chose. Il faut d'abord que l'évangile soit prêché à tous ceux qui, et tous ceux qui l'entendent et qui croient en Jésus-Christ, qui viennent à croire en Jésus-Christ, font l'expérience de leur salut. Et après avoir fait l'expérience de leur salut, ils font le pas de la foi et de l'obéissance pour être ensuite baptisés d'eau. Bien sûr, depuis la christianisation forcée, les grands-pères et les grands de mère et les bébés ont été aspergés d'eau. Mais cela n'est pas le christianisme biblique. Croyez-moi. Cherchez dans les Écritures. Sondez les Écritures. Vous n'êtes pas obligé de prendre ce que nous disons ici. Cherchez dans les Écritures. Vous n'êtes pas obligé d'accepter ce qu'on dit. Vous-même, examinez les Écritures. Et vous obtiendrez la réponse. Si vous allez chez les méthodistes, vous aurez leur réponse. Si vous allez chez les baptistes, tout le monde peut avoir une certaine réponse. Moi, j'ai besoin de la réponse de Dieu. Et c'est pourquoi je ne vais dans aucune église. Je ne vais chez aucun érudit. Je m'en remets à l'enseignement de Dieu que nous trouvons dans les Écritures. Saintes, il y a parfois des gens qui disent, oui, je serai sauvé. Cher cœur, chers frères et sœurs, chers amis, laisse-moi te dire d'urgence aujourd'hui et cela au nom du Seigneur. N'essayez pas de devenir béni à votre manière, d'être sauvé à votre manière, car une telle bénédiction, un tel salut n'existe pas. La déception sera très grande à la fin. Et l'éternité est trop longue pour traverser l'éternité en étant trompé. Donc, passez à l'éternité en étant trompé. Nous revenons au modèle biblique et cela est nécessaire. Et pour cela, je me tourne vers le chapitre 2 des Actes des Apôtres. Ici, Pierre, nous verrons tout de suite à tenir la première prédication. Je me demande parfois comment les papes peuvent se considérer comme les successeurs de Pierre et ne pas baptiser du tout comme Pierre a baptisé, comme Pierre baptisait. C'est déjà une chose discutable, n'est-ce pas? Si je me réfère à Pierre, alors je veux croire comme il a cru et baptiser comme il a baptisé, n'est-ce pas? Bien sûr, que Dieu nous accorde la grâce de le faire. Dans les Actes des Apôtres, ici, au chapitre 2, dans cette longue prédication, le jour de la Pentecôte, à partir du verset 37, nous lisons Actes des Apôtres 2, verset 37, concernant l'effet de cette prédication de Pierre. Nous lisons la chose suivante. Lorsqu'ils entendirent cela, ce fut comme un coup de poignard dans leur cœur. Actes des Apôtres 2, verset 37. Et ils se tournèrent vers Pierre et les autres apôtres et demandèrent, « Que devons-nous faire, chers frères ? Que ferons-nous, chers frères ?» Verset 38, Pierre leur répondit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez aussi le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont encore loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, en appellera. » Il leur adressa aussi des paroles pressantes en bien d'autres termes, les avertissant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Puis, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, se laissèrent baptiser. Et ainsi, environ 3 000 âmes, furent ajoutées ce jour-là. Ici, vous remarquez comment est-ce que cela a commencé. D'abord, la prédication. Puis, la réception de ce qui a été dit, de ce qui a été prêché. La foi venait de la prédication. Et la prédication venait de la parole de Dieu. Et puis est venue la décision. Les gens ne raisonnaient pas sous l'écoute de la prédication. Ils ont été poussés par Dieu et ont pris leur décision. Ça n'a pas été une réflexion intellectuelle. Mais ils ont pris leur décision sans demander ce que le Haut Conseil, ce que l'Église ou la congrégation dirait, ce que les proches auraient à dire, les proches parents. Non, Ils ont pris leur décision. Et c'est écrit ici, ceux qui ont accepté sa parole ont été baptisés. C'est ainsi qu'environ 3000 âmes ont été ajoutées à l'Église. En particulier pour ceux qui n'ont pas encore fait ce pas biblique. Vous avez aujourd'hui l'occasion de le faire. Mais celui qui a la ferme résolution dans son cœur de rester ce qu'il est, même nous, nous ne pourrons pas l'aider. Dieu ne peut pas non plus l'aider. Dieu n'oblige personne. Dieu cherche, Dieu appelle. Mais c'est toi qui dois répondre. Vous devez répondre. Et vous devez vous-même répondre. Vous devez venir vous-même. Si des personnes ne se considèrent pas dignes de la vie éternelle et placent leur confiance dans une institution religieuse en pensant que c'était bon pour l'arrière-grand-père et la grande-mère, alors cela devrait être suffisant pour nous aussi. Non, non. Ici, nous avons affaire à Dieu et à la parole de Dieu. Et nous proclamons la vérité de la parole de Dieu. Et celui qui est de la vérité, qu'il écoute la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu que nous lisons. Nous ne pouvons pas faire de compromis, car alors nous gâchons la cause de Dieu. Et elle n'est plus authentique à ce moment-là. Et nous sommes nous-mêmes entraînés dans la ruine. Merci à Dieu qui nous a donné une telle clarté dans sa parole. Il est parfois difficile de comprendre pourquoi les gens ne trouvent pas le chemin de Dieu. Mais je peux aussi vous le dire, ceci. Le Seigneur réprimanda les scribes et leur a dit autrefois, vous avez pris la clé de la connaissance, vous avez fermé la porte, vous n'êtes pas entré vous-même et vous avez empêché tous ceux qui voulaient entrer. Mais maintenant, le chemin est libre. La porte est ouverte. Le rideau est déchiré. Tout le monde peut venir. Tout le monde peut faire l'expérience avec Dieu. Prenez, acceptez, recevez aujourd'hui. Prenez votre décision pour Jésus-Christ, notre Seigneur. Et puis, c'est le plus beau jour pour vous et dans votre vie. Comme le cantique. Le chant, c'était le plus beau jour que Dieu m'a jamais donné. Pour ceux qui n'ont pas encore pris leur décision, l'heure de ce matin est une réunion très, très critique. Auparavant, vous aviez encore une excuse. Maintenant, vous ne l'avez plus. Auparavant, vous ne l'avez pas su. Et maintenant, vous le savez. Et avec cela vient une grande responsabilité sur vous. Je l'ai dit assez souvent. Pour beaucoup, il aurait été préférable qu'il ne soit jamais venu sous la prédication de la parole. Mais nous croyons que Dieu vous a conduit ici. Je ne peux pas croire que les gens viennent à de telles réunions si ce n'est que Dieu ait quelque chose comme intention pour eux. Cher cœur, ça ne brise pas ta fierté. Qu'est-ce que tu as à perdre? Vous n'avez qu'à gagner. Mettez-vous du côté de Dieu et dites, Seigneur, voici ma vie. Aujourd'hui, je t'accepte et je te reçois comme mon sauveur personnel. Aujourd'hui, par le baptême, je veux faire l'alliance d'une bonne conscience avec Dieu. Le baptême ne signifie pas se débarrasser des souillures de la chair, comme l'écrit Pierre, mais il est l'alliance d'une bonne conscience avec Dieu. Aujourd'hui, vous pouvez avoir une bonne conscience, recevoir une bonne conscience. Aujourd'hui, tout ce qui vous tourmente et vous ronge peut être enlevé. Toute incertitude, tout doute, toute incrédulité, tout peut être retiré de vous aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouvez devenir un vrai croyant en Dieu. Recevez-le, acceptez-le, croyez qu'il est là, que cela est là pour vous et vous le recevrez. Beaucoup se seraient réjouis d'entendre la parole du Seigneur si clairement. Mais maintenant, le temps est venu où toutes ces vérités bibliques seront placées sur le chandelier, apportées en lumière d'une manière complètement nouvelle et proclamées de la même manière qu'à l'époque des apôtres. Maintenant que l'Esprit de Dieu apporte la clarté et la décision dans chaque cœur, que tous ceux qui n'ont pas encore été baptisés bibliquement au nom de Jésus-Christ saisissent l'occasion aujourd'hui et soient baptisés bibliquement. Nous ne faisons qu'appeler. Soyez réconciliés avec Dieu. Laissez-vous sauver de cette génération perverse. Passez de la voie large, du chemin large au chemin étroit. Soyez prêts à prendre sur vous la honte et le mépris, sachant qu'ensuite nous serons couronnés dans la gloire et serons toujours avec le Seigneur. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Nous nous levons maintenant pour la prière. Et nous allons tout de suite baptiser. Mais d'abord, nous chantons ce chœur, tel que je suis, sans rien de moi. Tel que je suis, sans rien de moi. Pas ma force, mais seulement la tienne. Ton sang me lave de mes péchés. Ô agneau de Dieu, je viens. Nous inclinons nos têtes, fermons nos yeux, ouvrons nos cœurs. Mes chers, nous sommes ici dans la présence de Dieu. Nous ne sommes pas devant des hommes, mais devant le Dieu vivant, devant lequel tous les hommes doivent un jour comparaître pour être jugés. Aujourd'hui, nous avons entendu l'Évangile. Aujourd'hui, après avoir entendu sa voix, nous ne devons pas endurcir nos cœurs, mais venir à lui. Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Sa voix est sa parole. Il a appelé, il a parlé, et vous le savez. Vous savez au fond de votre cœur que c'est vrai. Vous savez que c'est biblique. Vous savez que c'est vrai. Acceptez-le aujourd'hui, et Dieu sera avec vous. Et à partir d'aujourd'hui, l'angoisse cessera. La joie et la paix entreront dans votre cœur à partir d'aujourd'hui. Vous pouvez être heureux et béni et sauvé et bienheureux. Que la résistance intérieure et la lutte intérieure soient menées à la victoire par la grâce de notre Dieu. Maintenant, alors que toutes les têtes sont inclinées, que tous les yeux sont fermés, que tous les cœurs sont ouverts, je voudrais demander combien y a-t-il ici qui souhaitent consacrer leur vie à Dieu et être baptisés. Levez la main un instant. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Peut-être que vous pouvez juste venir devant. Tous ceux qui souhaiteraient être baptisés, qui souhaitent être baptisés aujourd'hui, veillez vous avancer. Nous sentons encore une fois, comme je suis, tel que je suis sans rien de moi. Tel que je suis sans rien de moi. Sinon, donc pas ma force, mais la tienne, seulement la tienne. Ton sang me lave de mes péchés. Ô agneau de Dieu, je viens. Encore une fois, tel que je suis, sans rien de moi, sinon ton sang versé pour moi. Ton sang me lave du péché, ô agneau de Dieu. Je viens. Bien-aimé, restez tranquille, juste un peu tranquille. Cher ami, vous qui êtes venu, vous savez de quoi il s'agit. Jeune homme, quel âge as-tu? 13 ans, Dieu te bénisse. Chère sœur, tu crois que le Seigneur est ton sauveur? Qu'il a pardonné ton péché et que tu es devenu un enfant de Dieu? De tout votre cœur? Jeune homme, tu le crois aussi que Dieu te bénisse? Tu le crois aussi que le Seigneur est ton rédempteur? Qu'il a pardonné tes péchés et qu'il t'a accepté? Amen, frère, toi aussi tu crois de tout ton cœur? De tout ton cœur, que Dieu te bénisse. Cher frère, toi aussi, amen. Chère sœur, toi aussi tu crois de tout ton cœur? Que Dieu te bénisse. Cher frère, toi aussi, tu crois de tout ton cœur. Amen. Amen. Bien-aimé frère, toi aussi, tu crois de tout ton cœur. Amen. Chère sœur, cher frère, toi aussi, tu crois de tout ton cœur. Amen. Chère sœur, toi aussi, tu crois que le Seigneur est ton sauveur. Amen. Chère sœur, toi aussi, tu crois que le Seigneur est ton rédempteur, est ton sauveur, et qu'il a pardonné tes péchés et que tu lui appartiens. Amen. Vous le croyez tous? Oui. Toi aussi. Tu crois de tout ton cœur. Oui, que le Seigneur t'a accepté et que tu es à lui, que tu lui appartiens. Amen, amen. Maintenant, nous prions ensemble. Je vous demande à tous, frères et sœurs bien-aimés, de vous joindre à moi pour prier pour ceux qui se font baptiser maintenant, alors qu'ils commencent un nouveau chemin, une nouvelle vie. Ce jour a une grande importance pour leur vie. Prions, Dieu Tout-Puissant, en tant qu'Église, en tant que ton peuple, nous venons devant ton trône de grâce. Nous nous réjouissons avec nos frères et avec nos sœurs qui t'ont consacré leur vie, Seigneur. Couronne-les dès maintenant de grâce et de miséricorde. Fais-leur sentir que tu les as aimés, rachetés, délivrés et pardonnés et fais grâce. Que ce jour soit un jour glorieux dans leur vie. Seigneur, donne-leur maintenant une foi entière, complète, totale et une confiance totale en toi. Ô Seigneur, l'assurance, la certitude que tu seras avec eux jusqu'à ce qu'ils passent de la foi à la vue. Seigneur, nous aussi, nous croyons que tu les as rachetés, délivrés, que tu leur as fait grâce, pardonnés, que tu les as attirés à toi. Ô Seigneur, nous croyons que tu as pardonné leurs péchés, que tu as expié leurs fautes et que tu les as acceptés, agréés, accueillis. Ils t'appartiennent, ils sont ta propriété pour ce temps et l'éternité. Je te rends grâce de tout mon cœur pour eux tous, au nom saint de Jésus. Amen. Amen.